Chers frères et sœurs et chers amis, notre huitième étude concerne l'alpha et l'oméga. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 8 « Je suis l'alpha et l'oméga, dit notre Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Tout-Puissant. » Apocalypse chapitre 1 verset 8, c'est ce que nous avons dit. Il me dit encore, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 21 verset 6, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse, chapitre 22, verset 13. L'un des titres que le Seigneur se donne dans sa résurrection est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur se présente ici comme le vivant. Oui, celui qui était mort, mais qui est vivant et au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 1. Verset 18. Oui, voyez-vous, ces deux lettres, alpha et oméga, sont, nous le savons bien, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'une a la même forme que la première lettre de notre propre alphabet, l'autre est différente de toutes nos lettres. Donc alpha et oméga, premier et dernier, dans tout l'alphabet, il y a quelque chose qui correspond à un A et un Z, un alpha et un oméga. Un commencement et une fin. Peu importe que l'alphabet soit compliqué ou qu'il ne contienne que 26 pauvres lettres, comme l'alphabet français, tout est cependant limité par le A et le Z, l'alpha et l'oméga. L'on ne peut rien trouver en dehors de cela. Tout se trouve entre ces deux lettres. Alpha et oméga représente tout ce qui est nécessaire au discours. Il n'y a pas de discours possible dans aucune langue en dehors de ce qui se trouve entre ces deux lettres. Oui, tout ce qui peut être dit doit rester dans leurs limites, car en dehors de leurs limites, rien ne peut être dit. Or, Jésus-Christ dit, il dit cela de lui-même. Et oui, je suis l'alpha et l'oméga. La parole de Dieu nous dit que Christ est la plénitude de Dieu et que Dieu veut rassembler toutes choses en Christ. Elle nous montre de plus que Dieu ne parlera jamais à personne en dehors de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a lié à son Fils tout ce qu'il a à dire à l'homme. Il a fait de Christ la limite de tout. Il n'a rien à dire et il ne dira rien en dehors de son Fils bien-aimé. Personne ne vient au Père que par moi, a dit le Fils. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Matthieu, l'Évangile, chapitre 11, verset 27. L'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux la commence en disant « Autrefois, Dieu a parlé en fragments et en parties. et de diverses manières par des hommes différents et en des temps divers. Mais en ces derniers temps, eh bien Dieu a résumé tout ce qu'il avait à dire en son Fils bien-aimé. À la fin, il nous a parlé en son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Oui, tout ce que Dieu nous dira et tout ce que Dieu peut nous dire sera en Jésus-Christ. Oui, je suis l'alpha, la toute première syllabe de la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Elle commence par A. C'est le premier murmure du bébé. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils bien-aimé, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père, Papa. Galates chapitre 4, verset 6. La toute première syllabe de la vie chrétienne commence donc par A, Père, Papa. Nous ne connaissons pas le Père avant de connaître Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a révélé le Père, le commencement de toute connaissance de Dieu. Comme Père nous est donné par Jésus-Christ. Ce qu'il a dit dans sa prière était bien vrai. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 6. Oui, chers amis, et ce nom était celui de Papa. Désirons-nous connaître Dieu, chers amis? Désirons-nous le connaître comme un Père? Désirons-nous savoir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut nous faire connaître? Désirons-nous connaître toute la vaste richesse que Dieu veut nous révéler ou quelque chose de cette richesse? Nous ne pouvons la connaître qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons la connaître qu'en celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de connaissance sans mots composés de lettres, excepté peut-être par nos amis chinois. Et toutes les lettres se trouvent donc entre A et Z. Il n'y a pas de connaissance qui soit une vraie connaissance, une connaissance qui soit la vie éternelle. Oui, il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Oui, c'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse, ô toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Saint Jean chapitre 17, verset 3. Oui, il n'y a pas de connaissance en dehors de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de communication de la part de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ de côté et Dieu sera silencieux. Il n'a rien à vous dire. Si nous ne donnons pas à son Fils bien-aimé la place qui est sienne, eh bien Dieu restera muet, il ne nous dira rien. Plus nous honorons le Fils de Dieu, plus le Père se manifestera à nous et sera en communion avec nous, avec vous, chers amis. Deuxièmement, Alpha et Oméga renferment non seulement tous les discours, ils répondent à tout besoin. Et oui, nous n'avons besoin de rien en dehors de A et de Z. Nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lettres. Tout est là. Peu importe que nous employions de grands mots, et il y a de grands mots en nos jours, mais Peu importe la grandeur des mots, la longueur des phrases, la hauteur des expressions, nous pouvons répondre aux besoins du plus grand des mots, de la plus longue des phrases et de l'expression la plus entière par ce qui se trouve entre alpha et oméga. Pour tous ces grands nouveaux mots, nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lettres. Tout ce dont nous avons besoin est là. L'apôtre Paul nous dit que en lui, c'est-à-dire en Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Et tous les trésors de la sagesse et de la science, et oui, s'y trouvent, Colossiens chapitre 2, verset 3, et que il y a plu à Dieu, il lui a fait plaisir, de faire habiter en lui toute sa plénitude, chapitre 1, verset 19. Nous aimons beaucoup cette parole que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Mon Dieu pourvoira, oui, aussi à tous vos besoins, selon sa merveilleuse richesse, dans la gloire en Jésus-Christ le bien-aimé. Philippiens chapitre 4, verset 19. Il sera pourvu à tout besoin sur l'échelle de ses richesses dans la gloire. Pouvons-nous saisir cela, chers amis? Pouvons-nous embrasser cela? Mais c'est selon ce qui est en Jésus-Christ qu'il sera pourvu à tous nos besoins. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsque Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il dit « Je suis tout ce dont vous avez besoin ». Oui, vous ne pouvez jamais avoir un besoin plus grand, vous ne pouvez jamais inventer ou imaginer quelque chose à quoi je ne suffirai pas. Aucune situation ne peut m'épuiser. Oh oui, et en moi demeure toute la plénitude, car je suis alpha et oméga. Christ est le premier et le dernier dans la création, que nous le voulons ou pas. C'est ce que dit la parole de Dieu dans cette lettre aux Colossiens que nous venons de citer. L'apôtre nous dit clairement et précisément que, en lui, ont été créées toutes choses, et que il est avant toutes choses, chapitre 1, verset 16 à 17, de Colossiens. L'apôtre Jean, au commencement de son évangile, nous dit également que toutes choses ont été faites par lui. Évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 3. Il est donc le commencement dans la création. Et dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que le monde ou les âges ont été faits par lui. C'est par lui, chers amis, qu'ils sont entrés en existence. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Dans ce livre de l'Apocalypse, nous lisons « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création de Dieu. » Chapitre 3, verset 14. Il est donc l'alpha et l'oméga dans toute la création. Il est ici l'alpha. Oui, l'agent même de l'instrument de la création. Il a été le modèle de la création, car toutes choses ont été créées pour être une expression temporelle et matérielle des réalités spirituelles et morales qui sont dans le Fils bien-aimé de Dieu. Si nous avions des yeux pour voir et une intelligence pour comprendre, oui, pour comprendre les secrets les plus profonds d'une création non déchue, d'un vaste univers sortant de la main de Dieu, eh bien, nous verrions en tout quelque chose qui parle du Fils bien-aimé de Dieu, de son caractère spirituel et moral, de sa place suprême dans tout le système de Dieu. Il est le modèle de la création, chers amis. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11, verset 36. Et il est déclaré, oh oui, être quoi? Être la perfection. Il est le but de la création de Dieu. Donc, il est alpha et oméga. Tout ce que nous venons de dire, chers amis, a pour but de mettre le Seigneur Jésus à la place qui est donc la sienne dans l'univers de Dieu. Mais nous pouvons sentir que tout cela ne nous aide pas tellement. Ce qui se rapproche davantage de nous, c'est ceci. Il est l'alpha et l'oméga dans la rédemption. Oui, il est le premier et le dernier dans la rédemption. Alléluia. Nous trouvons encore dans cette lettre aux Hébreux ces paroles merveilleuses qui nous sont familières. Regardons à Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est donc le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de la rédemption. Alléluia. Christ est naturellement le commencement de la rédemption dans ce simple sens qu'il n'y a point de rédemption avant que nous venions à lui. Je répète. Évidemment, excusez-moi. Il n'y a donc pas de rédemption avant que nous venions à lui, de même qu'il n'y a pas de parole, pas de moyen de communication, pas de connaissance, avant que nous venions à l'alphabet. Ainsi, il n'y a pas de rédemption avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ, que nous le voulons ou pas. Il n'y a simplement rien avant A. Il n'y a rien avant Alpha, c'est juste là que tout commence. Et ce qui est vrai en ce qui concerne le langage est vrai également dans la rédemption. Il n'y a simplement pas de rédemption, il n'y a pas de salut avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous venons à lui, il y a un nouveau commencement. C'est le commencement de tout, une sphère toute nouvelle et une nouvelle étendue de possibilités, que ce soit de communication, de connaissance et d'intelligence, de sagesse ou de plaisir. Quelle richesse, chers amis, il y a en Christ. Quelle richesse il y a en lui, notre Rédempteur, lorsque nous le recevons comme le commencement. L'alpha du salut, quel monde merveilleux s'ouvre pour nous. Oh oui, lorsque nous prenons un dictionnaire et que nous commençons à en tourner les pages, quel monde s'ouvre à nous. À mesure que nous avançons à travers les nombreux milliers de mots, avec toutes leurs tailles et leurs formes différentes, quel monde nous avons là. Je ne pourrais comprendre quelqu'un qui ne trouverait aucun plaisir dans un dictionnaire. Mais vous voyez à quoi nous voulons arriver, à quoi j'essaye d'y arriver. Car lorsque nous venons à Jésus-Christ comme à l'alpha, eh bien un monde nouveau très vaste et merveilleux, commence à s'ouvrir devant nous. Un monde que nous n'avions jamais imaginé. Lorsque nous trouvons de nouveaux mots dans le dictionnaire, des mots que nous ne pensions pas y être, cela nous ouvre une vision entièrement nouvelle. Il en est de même à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devient notre commencement. Un monde inépuisable s'ouvre donc devant nous, richesse, plénitude, abandon de connaissances. Oui, plutôt, corrigeons le mot abandon. Au contraire, c'est une abondance. Excusez-moi parce que je suis de langue allemande et je barjaque assez mal le français. Bon, abondance de connaissances, d'accord? Et nous avons devant nous des possibilités, chers amis, sans limite, lorsque nous commençons par A. Et il y a, évidemment, pas de fin. Car de même que quelque chose de nouveau est ajouté d'année en année au dictionnaire, il en est ainsi de la vie chrétienne. Je n'exagère absolument pas. Mon expérience durant toutes ces années, et spécialement peut-être durant ces dernières années, hein, car j'ai quand même plus de 81 ans, hein, un vieux bonhomme, c'est que Christ, mon bien-aimé, est inépuisable. Il y a plus et toujours plus, davantage, c'est le mot. Je comprends mieux le mot davantage. Donc il y a davantage de trésors que nous n'avions pas encore découverts. Mais tout cela a commencé lorsque nous sommes venus à lui. Et cela a toujours continué dès lors et se continuera durant toute l'éternité. Car la parole dit, à l'accroissement de son empire, il n'y aura pas de fin dans son royaume. Ésaïe, chapitre 9, verset 7, de la version Darby. Pas de fin. Quel royaume de plénitude est son royaume. Mais il nous faut commencer avec lui. Il nous faut faire de lui notre commencement avant de pouvoir en posséder quelque chose. Il doit être nôtre. Oui, il doit être notre alpha. Mais dès qu'il est devenu, croyez-moi, je le répète, un monde nouveau s'ouvre à nous, une nouvelle plénitude. Et une telle plénitude commence à se révéler. Oui, tout est en lui, car il est notre rédempteur. Et c'est ce que nous trouvons dans le premier chapitre de l'Apocalypse, les titres du Seigneur qui lui sont donnés dans sa résurrection. Et nous avons ensuite des paroles qui nous disent ce qu'il a fait dans la rédemption. Il a racheté pour Dieu par son sang précieux. Oui, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9, il nous a lavés de nos péchés par son sang précieux et nous a fait roi et prêtre pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Quand je parle de la version Darby, n'ayez pas peur, ce n'est pas une secte diabolique, juste pour qu'on le sache entre nous. Donc c'est l'œuvre de la rédemption qui nous a ouvert un monde où tout est nouveau, chers amis, une plénitude merveilleuse, croyez-moi, il est l'alpha de la rédemption. Christ n'est pas seulement le commencement, il est celui qui commence toute chose. Il est dit ici l'auteur, il est l'auteur. Der Beginn, regardant à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est celui qui commence toute chose, celui qui prend en main cette responsabilité de recommencer tout à nouveau, et de nous faire entrer dans un monde que nous n'avions jamais connu auparavant. Il en est l'initiateur, tout est entre ses mains. Il le fait, Il a pris l'initiative de notre rédemption. C'est le point final. J'en suis si heureux, si infiniment heureux, croyez-moi. Quoi que l'on puisse dire de notre propre désir, du besoin que l'homme a de Dieu, de sa recherche de Dieu, cela ne peut être comparé au désir que Dieu a de l'homme, à la manière dont il le cherche, car il nous cherche. Il vous cherche. Ce que le Seigneur Jésus est venu nous révéler, et ce qu'il nous a révélé, c'est que c'est Dieu qui nous cherche. Voyez-vous ça? On n'aurait pas pensé. Ces paraboles merveilleuses, et qui nous sont si familières sur la brebis perdue, sûrement qu'il y en a qui se souviennent, et la pièce d'argent perdue, et sans compter le fils perdu, selon Saint Luc chapitre 15. Et tous ceux qui sont perdus, oui, toutes ces personnes qui sont perdues doivent nous montrer que Dieu est celui qui cherche, il nous cherche, que l'initiative vient de Dieu. Le Fils bien-aimé de l'homme est venu chercher, sauver, et sauver, vous avez entendu, ce qui est perdu. Évangile de Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Oui, c'est Dieu qui a tout commencé. Vous et moi, nous ne nous réjouirons pas de notre salut s'il ne l'avait pas commencé. Car il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Et c'est pourquoi nous sommes au nombre de ces rachetés. Et si nous sommes maintenant parmi ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est simplement parce qu'il nous a cherchés, que nous l'ayons cherché ou non. Il a été certainement celui qui nous a cherchés. Il a été celui qui a tout commencé. Aucun autre que lui ne peut commencer à nous racheter. Et oui, aucun autre que lui ne peut nous sauver. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a donc pas de commencement à la rédemption hors de lui. Et Christ est le dernier, l'oméga, la fin, dans ce sens que lorsque il a commencé quelque chose, croyez-moi, il l'achève. L'Éternel dit la parole. Et il achèvera ce qu'il a commencé en ma faveur. Psaume 138, verset 8. Il est donc celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre en poursuivant l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Il finit, croyez-moi, oui, il termine ce qu'il commence, et il est non seulement celui qui commence et qui achève, il est lui-même le commencement et l'achèvement. Dieu fait concourir toutes choses à l'accomplissement de son but pour que nous soyons conformes à l'image de son Fils bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 29. Oui, Christ est là. Pour ainsi dire, tout à la fin, et Dieu avance et agit en nous, son peuple, en relation avec celui qui se tient au bout du chemin, afin que nous devenions conformes à son image. Le serviteur de Dieu s'écrit, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume chapitre 17, verset 15. Et c'est cette image qui est le but, Jésus-Christ lui-même. Oui, lui-même est la fin de toute chose sous le gouvernement des cieux, contribue donc à notre conformité au Fils de Dieu. De plus, Christ, l'alpha et l'oméga, donne donc un sens à la vie. Je puis avoir un plateau sur lequel sont éparpillées toutes les lettres d'un alphabet si je sais ce que sont les lettres et si je sais ce que je veux. Je pourrais les mettre en ordre de façon à ce qu'elles prennent un sens. Elles exprimeront alors exactement ce que je veux exprimer. Tout ce qui se trouve entre A et Z, entre alpha et oméga, prend un sens dès qu'il est mis à sa place. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, chers amis, qui ne peuvent voir aucun sens à la vie. Oui, beaucoup s'efforcent de donner un sens à leur vie. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle en est l'explication? Il semble que tout ne soit qu'un chaos, une confusion, une énigme. Oui, Jésus-Christ donne un sens, croyez-moi, à notre vie. Il met en ordre le chaos dans notre vie. Et c'est là une description du dessein divin, oui, du grand but de Dieu, donner à toute chose leur explication. Oui, en lui, chers amis, nous avons la réponse aux problèmes de notre vie. En lui, nos vies dispersées et confuses sont remises en ordre. Cela n'a-t-il pas été vrai de beaucoup d'hommes et de femmes dont les vies étaient troublées et confuses, emmêlées et tordues, sans aucun but ni aucun idéal apparent, sans signification ni explication? Ils ne pouvaient trouver de sens à rien du tout. Alors ils sont venus au Seigneur Jésus et leur vie a tout à coup pris un sens, un but, un dessein apparu et ils en sont arrivés à réaliser la signification de leur vie, ce à quoi ils sont destinés. C'est donc le témoignage de ceux qui sont véritablement à lui. Dans le Seigneur Jésus, nous avons trouvé une signification à notre vie, une explication de la vie. Il peut apporter dans la vie un clair modèle, une intelligence nouvelle, croyez-moi. En lui, l'alpha et l'oméga, eh bien nous avons tout ce qui est nécessaire pour que notre vie ait un sens, enfin. Laissez-moi, chers amis, le répéter. Avant d'avoir nos lettres, nos caractères fondamentaux, il n'y a pas de commencement. Et il n'y aura pas de fin sensée et intelligente. Jésus-Christ nous accorde tout cela, un commencement et une fin intelligente. Il nous conduit quelque part lorsque vous et moi, nous finirons par atteindre le but dans sa gloire. Ce sera réellement une fin pleine de sens. Et croyez-moi, s'il vous plaît, faites-lui confiance. Ce sera une fin qui justifiera tout, qui donnera sa signification à tout ce que nous aurons traversé, qui expliquera absolument tout. Les mille pourquoi de notre vie auront leur réponse. Tout sera expliqué. Pourquoi a-t-il fallu cette expérience ou celle-là? Pourquoi cette tristesse et celle-là? Pourquoi ce désappointement et cette perte? Pourquoi ces voies étranges dans notre vie? Tout aura donc sa réponse à la fin, et Jésus-Christ lui-même sera la fin. Oui, ce sera une fin qui aura une valeur. Nous ne discuterons pas avec Dieu parce que Jésus-Christ aura mis tout en ordre et il nous aura amenés à une fin qui dépassera nos expériences les plus hardies et qui sera entièrement en dehors de nos mérites. Chers amis, eh oui, nous pouvons ainsi comprendre pourquoi dans la Bible, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, verset 13, je répète Apocalypse chapitre 19, verset 13, car oui, Dieu parle en lui et par lui, toujours et uniquement et finalement en son Fils bien-aimé. Peut-être dirons-nous, oui, tout cela est très intéressant. Mais après tout, comment parle-t-il ? Devons-nous l'entendre de nos oreilles ? Non, pas de cette manière, chers amis. Si nous revenons au contexte de ces titres, nous verrons que Dieu parle par la vie de résurrection. « Je suis le vivant au siècle des siècles » Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Comment parle-t-il donc ? Comment le connaissons-nous ? Comment la vie est-elle libérée de ses énigmes et de sa confusion et amenée dans un ordre et un sens ? Lorsqu'il devient notre vie, eh bien, il nous fait participants de sa propre vie de résurrection. Il met en nous cette vie qui est une vie d'ordre, une vie de sagesse et d'intelligence, une vie non plus de confusion, mais un modèle d'ordre. Et c'est une puissance de vie qui est en nous. Chers amis, avant de terminer, j'aimerais vous dire ceci. Voyez-vous, lorsque sa vie est en nous, cette vie répond aux questions, explique les choses qui donnent donc un sens à notre vie. Et tandis que pour les oreilles naturelles, la vie peut être imperceptible, la vie est en réalité ce qui parle avec beaucoup, beaucoup de puissance. Elle parle plus fort, beaucoup plus fort que des mots. Un pauvre enfant de Dieu, souffrant, peut être pas du tout capable de dire grand-chose en paroles cohérentes. Mais il suffit de passer avec lui un moment très court pour que la vie qui est en lui nous parle. La vie même qui est en lui parle avec beaucoup plus de puissance que des paroles. C'est la vie qui est en nous, qui est la communication, l'explication, la sagesse de Dieu, la puissance de cette vie agissante et qui se trouve en effet en nous. Car par cette vie, Dieu nous parle, il répond à nos problèmes. Et si souvent la réponse que Dieu nous donne ne consiste pas toujours en quelque chose qu'il dit, mais en quelque chose qu'il fait. Oui, qu'il fait tout simplement par un nouveau toucher de vie. Voyez-vous, il est étrange de voir comment, lorsque nous avons ce nouveau contact de vie dans notre être intérieur, nous cessons tout à coup de nous inquiéter de notre problème, car le problème est en quelque sorte résolu. Nous pouvons ne pas avoir reçu la réponse à nos questions, mais nous avons la réponse, elle nous est donnée en vie. Peu nous importe désormais le problème, il a eu sa réponse dans ce nouveau toucher de vie. La vie est le moyen par lequel Dieu nous parle, et la vie est le moyen par lequel Dieu parle à travers nous. Les gens du dehors peuvent entrer dans une église et n'avoir aucune idée, oh oui, aucune idée de ce que dit le prédicateur. Et cependant, croyez-moi, en s'en allant, ils pourront dire « Je n'ai pas compris un seul mot, mais, il y avait quelque chose là. » Ils pourront être incapables de décrire ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne sont pas familiers avec le langage et les phrases et la terminologie. Mais ils seront conscients, croyez-moi, d'avoir rencontré là quelque chose qui répond à un besoin. Or, s'ils le savaient seulement, ils diraient, c'est la vie, la vie, la vie. Oui, la vie. Et c'est de cette manière que Dieu parle réellement, et nous préférons qu'il en soit ainsi. N'est-ce pas, chers amis, plutôt que s'ils avaient pu comprendre beaucoup, beaucoup de mots et de phrases sans avoir éprouvé l'impression et la conscience de la vie. Il vaut mieux, naturellement, que les deux choses y soient. Mais, si nous avons à choisir, il vaut mieux qu'il en soit ainsi, qu'il se retire en disant « Il y a là quelque chose qu'il faut reconnaître. Je ne puis que dire « Ça, c'est Dieu !» Et ce qu'ils veulent dire, c'est ceci. C'est Jésus-Christ, le vivant. Alléluia! Oui, c'est ainsi que Dieu parle à travers nous. Oui, chers amis, soyons dans ce sens la voix de Dieu, la parole de Dieu, l'expression de Christ, qui est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime, et je vous aime. Gloire à Dieu.